j'aurais simplement une interrogation par laquelle j'aurais peut-être dû commencer. On fait un titre « Mariage et célibat », mais ça correspond bien à nos analyses. Mais en fait, le célibat, c'est quand même pas un statut. Mariage, c'est un statut, mais c'est un statut qui est provisoire aussi, peut cesser pour la terre. Le célibat, nous en connaissons des frères ou des sœurs surtout qui ont passé une vie de dévouement quelquefois célibataire parce que les circonstances faisaient que, et ça se rencontrait peut-être davantage autrefois, il y avait des parents à soigner, il y avait toutes sortes de choses qui nécessitaient leur dévouement, et ce sont des personnes qui quelquefois se sont mariées relativement tard, qui ont vu leur chemin à faire ainsi. Il n'y a pas d'étiquetage dans ce genre de choses, semble-t-il. J'aurais peut-être dû commencer par là.
Un propos qui est un peu anecdotique, une citation de ce que disait Mademoiselle Vourouf à propos des frères qui étaient avec elle à l'œuvre et qui étaient mariés. Elle avait fait cette réflexion une fois que parmi tous les enfants dont elle avait à s'occuper, ceux qui étaient les moins respectueux étaient souvent les enfants des frères qui travaillaient avec elle. N'est-ce pas parce que ces frères-là, tellement occupés par leur service, n'avaient pas suffisamment de temps pour leurs enfants?
Matthieu 19, verset 30, où Jésus nous dit qu'on recevra davantage si on a tout laissé pour lui. Même, il est dit, ou femme ou enfant. Si on pouvoir remettre ça dans le contexte, parce qu'il nous dit aussi, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un incrédule.
Pour un couple marié qui a des enfants, quels sont les premiers objets de son dévouement? Les enfants, bien évidemment. Rejoint la remarque que faisait Daniel. Pour Miss Vourouf, c'était quand même quelqu'un, elle. Et c'est vrai que ça ne devait pas être facile non plus de, j'allais dire, pour les enfants de se soumettre, d'autant plus qu'ils la connaissaient bien. Je prends un peu la défense des enfants comme un excuse. Mais c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel d'ailleurs. Il fallait cela. Comme le Seigneur dit, seulement ceux à qui c'est donné. Souvent, c'est des gens qui... Le dévouement dans la famille s'exerce en premier lieu là, bien sûr.
Peut-être que... C'est dans la famille que le dévouement est à la fois d'une certaine manière le plus difficile et le plus méconnu. Ce que font les célibataires, ça se sait. Ce qu'on fait dans une famille, en général, ça ne se sait pas, ou ça se sait peu. Et l'apôtre vient nous dire, montrer leur piété envers ceux de leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus. C'est un service de longue haleine, souvent. C'est un service, j'allais dire, c'est pas le mot que je cherche, mais usant, physiquement, moralement. Mais c'est un service auquel on est confronté et qu'on fait volontiers parce que d'abord ce sont nos parents ou nos enfants et parce que c'est selon le Seigneur. Et ce service-là a un immense prix, même s'il n'est pas très reconnu extérieurement. Et je crois que là aussi, il faut voir que chacun, dans la situation où il est, a ses responsabilités. Ce que demande le Seigneur, c'est d'être fidèle là où on est.
C'est bien ce que la parole de Dieu nous enseigne, comme vient d'être dit. Et en particulier des jeunes qui se marient doivent bien avoir conscience que leur propre responsabilité va commencer là, dans la famille, effectivement, à l'égard de leurs enfants. On sait dans le monde, cela est connu, que quand le couple fonctionne mal ou qu'il y a des différends, c'est les enfants qui en pâtissent en premier lieu. Eh bien, voilà, c'est la parole de Dieu nous enseigne très clair que nous devons commencer par notre famille. Chacun de nous qui avons élevé des enfants, bien, nous devons bien reconnaître que nous avons peut-être souvent manqué même dans ce que nous aurions dû enseigner à nos enfants.
Il y a souvent pas mal d'incompréhension entre les célibataires et les gens mariés. Et ça entraîne souvent des réflexions blessantes, les uns jugeant la façon d'élever des enfants, par exemple, ou l'emploi du temps d'un célibataire. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un peu plus d'amour et de réflexion sur l'état que nous ne connaissons pas pour essayer de mieux comprendre, de mieux supporter?
C'est difficile de répondre à cela. L'affection est dans l'homme au sens d'homme et femme, est quelque chose de très fort. Et quand quelqu'un fait une réflexion sur la manière dont les enfants devraient être élevés ou tout cela, c'est parce qu'en fond, cette personne qui fait cette réflexion pense qu'elle a plus d'affection, elle, pour les enfants que n'en ont véritablement les parents. Tandis si j'étais parent, je ferais comme ça pour le bien de l'enfant. Ce sont des choses difficiles. On voit cela, par exemple, au début du premier livre de Samuel, avec Pénina et Anne, où Anne, qui n'a pas d'enfant, est là, dans une situation difficile, et elle est, en plus, elle est chagrinée par Pénina. Et tout ça a été porté devant Dieu. Tout ça a été porté devant Dieu, et on voit comment Anne a eu cet exercice en pleurs, dans une situation difficile et où il y a eu une réponse de la part de Dieu à ce qui était chez elle quelque chose qui était très difficilement vécu sur le plan affectif. Très difficilement vécu, surtout dans l'Ancien Testament, au fait de ne pas avoir d'enfant était bien difficile, comme on l'avait remarqué à la dernière réunion. Mais c'est quelque chose qui a été apporté à Dieu et il a donné une réponse.
Dans nos assemblées, que Daniel avait traité la dernière fois de élitiste, nous pensons que quand les gens se marient, ils n'ont pas besoin d'enseignement particulier sur le mariage. Dans beaucoup d'assemblées, il y a des préparations au mariage. Chez nous, quand on assiste à un mariage, très souvent, le mariage est placé sur un piédestal. On dit aux mariés, vous avez trouvé une bonne chose, c'est vrai. Mais on ne leur dit pas, on ne les prépare peut-être pas suffisamment pour dire que ce n'est pas fini. Vous vous mariez, vous commencez une nouvelle vie, c'est un début, il va falloir construire, disons, on le dit, mais on insiste plus sur le fait que le jour du mariage, c'est un jour heureux, c'est bien, tout est beau, tout est bien. Très souvent, les mariés, après, il leur arrive de tomber de haut parce qu'ils s'aperçoivent que la vie de tous les jours, ce n'est pas très facile. Et pour les célibataires qui assistent au mariage, ils ont l'impression qu'ils ont réellement raté quelque chose. Il ne faut pas croire que le mariage, c'est la panacée dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas la panacée dans la vie du chrétien. Si Dieu permet qu'on se marie, c'est une responsabilité devant lui, ce n'est pas facile tous les jours. Si Dieu permet que quelqu'un reste célibataire, ce n'est pas facile tous les jours non plus, c'est différent. Et je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu de placer le mariage trop sur un piédestal, parce que ce n'est pas toujours bon pour les mariés, et c'est souvent douloureux pour ceux qui n'ont pas accès à cette élévation que l'on définit souvent comme telle chez nous.
Je rebondis sur ce qui vient de dire Daniel. Je pense à une réflexion que j'avais entendue d'un frère, je peux le nommer, il s'agit d'Henri Jean, dans une réunion de mariage. Ça m'avait surpris du reste. Il s'était adressé aux jeunes mariés, bien sûr, avec la parole, mais il leur avait posé cette question. Est-ce que vous avez pensé à votre première dispute? C'était assez... Il fallait Henri Jean pour dire cela, mais je pense que ça avait bien sa place. Quand on sait avec... Dans ce que nous avons connu, nous ne manquons pas, sans que ce soit des disputes très graves, mais des accrochages entre couples, parce que nous avons chacun notre caractère, hélas.
Dans la parole de couple modèle. Et c'est toujours délicat quand on prend des exemples, parmi les couples mariés de la parole, de prêcher dessus, parce que on a tendance un petit peu à laisser de côté ce qui n'est pas bien. Alors, on présente le mariage de Isaac et de Rebecca comme un bon exemple, mais quand on sait ce qui en est advenu. Et puis, il y a tout un contexte culturel. Quand on voit tous les objets d'or et d'argent que le serviteur apporte, est-ce qu'il faudrait faire comme ça aujourd'hui? Est-ce que cela a pesé dans la décision de Rebecca? C'était certainement un témoignage de l'amour d'Isaac pour Rebecca, c'est cadeau. Mais il faut être extrêmement prudent quand on remet dans son contexte les situations, surtout celles de l'Ancien Testament, et sur lesquelles on est amené quelquefois à dériver un peu facilement. Il n'y a pas de couple modèle. Il y a une sagesse populaire d'un de mes collègues qui n'était pas chrétien, qui me disait, tu sais, avec les enfants des autres, on est toujours très fort, avec les siens, on fait comme on peut.
Pour le choix d'un conjoint, on a dit qu'à l'évidence, le plus important, c'est qu'il soit chrétien. Et en discutant un peu avec les jeunes, comment savoir qu'il est vraiment chrétien? Est-ce à une dénomination? Est-ce à cause qu'il est en communion? Est-ce à cause qu'il ne l'est pas? à cause qui fait ci ou ça. Comment savoir?
On devrait pouvoir reconnaître la vie de Dieu dans quelqu'un, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, et puis les choses qui attirent, ça peut être ça aussi.
On a partagé plusieurs heures avec quelqu'un, on se rend compte d'un certain nombre de choses, mais il y a peut-être un critère auquel on ne pense pas souvent, auquel moi je n'ai pas pensé tout de suite, c'est partager des moments de prière. Parce que c'est là qu'on voit vraiment l'intimité d'un garçon ou d'une fille, d'un homme ou d'une femme. D'ailleurs, je dois dire que nous sommes vraiment heureux de voir que les jeunes générations sont sur ce sujet beaucoup plus libres que nous. Notre génération a été un peu... Les sœurs ne devant pas prier dans l'assemblée, on en a étendu tout cela d'une manière plus très générale, et c'est dommage. Et on ne peut que se réjouir de voir qu'aujourd'hui, les jeunes ont entre eux beaucoup plus de liberté pour prier que celle qu'on avait en notre temps.
Quand la question se pose... Enfin, c'est vrai, pour avoir, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais pour avoir vu un peu des cas autour, je me rends compte que la question se pose vraiment si il commence à y avoir une relation et qu'après on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Et du coup, il y a les sentiments, il y a toutes ces choses qui sont créées et après on se retrouve dans une situation compliquée. Parce que après l'autre aussi, à cause des sentiments, il a envie de dire, on peut se demander si à cause des sentiments il confesse pas sa foi. Ça peut être compliqué. Donc, je crois que c'est vraiment important que ça soit au tout début et que ça soit la première chose. On ne peut pas commencer une relation avec quelqu'un, choisir de l'aimer, si cette personne, on ne sait pas qu'elle est chrétienne. Et je crois que là, après, on rentre dans des situations où on n'arrive plus à sortir, on n'arrive plus à voir ce qui est, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, parce que c'est bien connu, les sentiments aveugles aussi. Et ça c'est vrai. Quand Donc je crois que vraiment, c'est la chose qui doit être posée au tout début. Et ça implique autre chose, les relations qu'on peut avoir ne peuvent pas être légères. C'est-à-dire que si on veut avoir une relation, on ne peut pas le faire à moitié. On est obligé de réfléchir à tout ce qu'il y a derrière. Et... Mais c'est certain que la prière, comme disait Daniel, c'est prier rapidement avec cette personne. Je crois que si cette personne n'est pas chrétienne, ce n'est pas faisable.
Rappelez que le Seigneur Jésus, donc dans Jean 16, nous a bien dit et qu'il avait beaucoup de choses à dire. Les disciples ne pouvaient pas supporter maintenant, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera. Mais il y a ce côté, il nous conduit dans toute la vérité. Savons-nous et réalisons-nous vraiment que l'Esprit Saint est là, qui agit et qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Et on n'entend peut-être pas une voix, et pourquoi pas, mais on a quelque chose qui agit dans nos cœurs, quelque chose qui est incontrôlable, on ne peut pas palper, mais on a le sentiment qu'on est dans la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Il y a ainsi donc un moment de prière personnelle pour le jeune homme, et puis ou la jeune fille, sans rien dire, uniquement en parlant au Seigneur, et le Seigneur nous enseignera dans la vérité par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ne parlons pas assez de ce fait que le Saint-Esprit nous parle et agit en chacun de nous. Et une fois que l'on a ce sentiment, qui nous semble que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée du Seigneur, alors ces deux êtres se rencontrent et prient ensemble. Mais là encore, le Saint-Esprit va agir et va faire monter à l'intérieur de leur cœur quelque chose de tellement magnifique. Une union déjà qui se révèle dans leurs pensées. Mais si une telle situation est incertaine ou dont on n'est pas sûr, Saint-Esprit reste un peu en arrière en disant non, tu es pas certain. Donc dès qu'il y a une incertitude, eh bien attendons que le Saint-Esprit nous parle vraiment de façon très claire et c'est quelque chose qu'il fait avec certitude.
Pour continuer ce que disait Alexandre, que l'amour est aveugle et que vraiment il faut mettre les bonnes bases dès le début. Je connais un peu la mécanique et pour connaître vraiment ce qui tient et ce qui ne tient pas, c'est en l'éprouvant. Et ça aussi c'est biblique, nous dit d'éprouver les esprits. Et aussi, je pense que une des solutions aussi, c'est d'éprouver l'autre par rapport à Dieu.
Éprouver soi pour savoir, comme le disait Daniel à la dernière réunion, si non seulement l'autre nous conviendra, mais question plus importante, si nous conviendra à l'autre. Et ce qui est encourageant pour rejoindre la pensée que Jean-Louis Roche exprimait à l'instant, à ce verset dans l'Ancien Testament, que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une parole disant « C'est ici le chemin, marchez-y ». Il y a un encouragement pour le chrétien qui est très fort dans ce chemin-là.